Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Si vous êtes pris de COVID déprime ou de COVID détresse ou de COVID dépression, je vous encourage à lire la plus récente chronique de mon collègue Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie et chroniqueur au Journal de Montréal. Je pense que sa chronique va vous remonter le moral. Pourquoi? Parce qu'il nous donne 4 raisons de rester optimiste. Oui, il faut être optimiste. Docteur Béliveau, comment allez-vous?
Bonjour, très bien, vous-même?
Ben écoutez, moi, ça allait déjà bien dimanche, mais lundi matin, hier, quand je me suis réveillée et que j'ai lu votre chronique, je me suis dit, ben le docteur Béliveau nous donne 4 bonnes raisons d'être optimiste. Alors pourquoi vous avez voulu écrire ce texte-là, docteur Béliveau, pour commencer?
Ben, exactement pour la raison que vous venez d'évoquer. je trouvais qu'avec la semaine dernière, on était dans une période de déprime existentielle là, avec les nouvelles qui sortaient à gauche et à droite. Et je pense que en recherche comme dans la vie, c'est important de faire des bilans à des moments donnés, puis de regarder pas juste où on va, mais d'où on vient. Et qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers mois, les derniers 6 mois, la dernière année, et comment est-ce qu'on a progressé. Puis et quand on fait ce bilan-là pour la COVID, je veux dire, le bilan est tout à fait exceptionnel. Je vous rappelle qu'on est dans la 8e pire pandémie de l'histoire de l'humanité. Là. C'est pas n'importe quoi. Ça n'a d'équivalent qu'avec la peste bubonique puis les épidémies de peste au 14e siècle, tout ça. Je vous rappelle que la pandémie de variole, ça a duré 500 ans. On a éradiqué la variole qu'à la fin du 20e siècle, ça a duré 500 ans. Donc, c'est qu'on ait réussi à créer des vaccins, pas juste à les créer, à les inventer. Là. Les vaccins ARN, ça n'existait pas. On a réussi à les créer. On a réussi à les produire avec l'industrie pharmaceutique en grande quantité, avec des milliards de doses. On a réussi à les tester dans 3 phases d'essais cliniques. Normalement, j'en fais, moi, des essais cliniques. Ça prend des années, quelquefois des décennies, avant de terminer ces essais-là. On a réussi à faire des essais cliniques en 1 an. On a réussi à les distribuer à l'échelle internationale. On est en train de les administrer au niveau national. On a le quart de la population du Québec qui est vaccinée. C'est absolument hallucinant. Juste pour ça, là, on devrait être très, très fiers de ce que, comme humanité, on a réussi dans 1 an avec un virus dont on ne connaissait absolument rien il y a 15 mois. Là.
C'est très intéressant ce que vous dites, puis j'aime beaucoup l'optimisme qu'il y a dans votre voix. Et ça, c'est un petit peu le bon vieux dicton: quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Parce qu'on peut peut-être, si on est à courte vue, regarder par exemple la situation en Ontario en se disant « Oh mon Dieu, ça va pas bien ». Regardez la situation en France, « Oh mon Dieu, ça va pas bien ». Regardez la situation en Inde. Mais il faut prendre un pas de recul et regarder l'ensemble de la situation, et surtout se comparer à où on était, mettons, le 13 mars 2020. Donc, c'est fulgurant la vitesse à laquelle on a réussi tout ça.
Oh, c'est fulgurant. Il n'y a aucun équivalent à ça dans l'histoire de l'humanité. Là. Je veux dire, ce n'a d'équivalent que la découverte de la pénicilline
par Fleming
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, on était dans la Deuxième Guerre mondiale, on a sauvé des vies, mais ça n'a jamais eu cet impact-là. On n'était pas d'une pandémie. Là, on est d'une pandémie. Et tout d'un coup, on a déjà, il y a plus d'une centaine de vaccins en essai clinique. On l'oublie, mais les vaccins chinois, les vaccins russes fonctionnent très bien à l'échelle internationale. Ils sont distribués partout. Il y a plus d'une centaine de vaccins en essai clinique. Et il y en a 4 qui vont être disponibles au Canada, qui fonctionnent remarquablement bien. Moi, quand j'entends les gens paniquer avec les effets secondaires d'AstraZeneca, là, écoutez, les chiffres, là, si vous avez le vaccin d'AstraZeneca, C'est 1 à 4 cas par 1 million de personnes. Alors que si vous attrapez la COVID, pour 1 million de personnes qui attrapent la COVID, c'est 165 000 cas de caillots. 1 à 4 versus 165 000 si vous attrapez la COVID. Fait que, écoutez, le risque zéro, ça n'existe pas. Là. Si vous avez le vaccin d'AstraZeneca, c'est 0.0004% de chance de faire des caillots. Mais si vous êtes aux soins intensifs avec la COVID, c'est 20% de faire des caillots. Si vous êtes hospitalisé avec la COVID, c'est 5%. Si vous êtes infecté avec la COVID, c'est 1%. C'est une personne sur cinq qui fait des caillots. Donc, 0.0004% pour l'Astra, là, écoutez, c'est un... Il n'y a pas d'ambiguïté. Là, les vaccins, il y a eu des millions de doses de vaccins données au Canada. Il n'y a aucun décès attribué au vaccin. La priorité, là, avec les mesures d'hygiène, de distanciation de masse, c'est de se faire vacciner au plus vite. Et c'est comme ça qu'on va venir à bout de cette pandémie-là. Il n'y a pas d'autre porte de sortie. Et dans une pandémie virale, la solution, c'est la vaccination.
Hier, j'ai fait une entrevue avec le politicien Maxime Bernier parce qu'il a déclaré la semaine dernière, le chef du Parti populaire du Canada, il a déclaré la semaine dernière « Moi, je ne me fais pas vacciner parce que j'ai 58 ans et je suis en pleine forme. Et si jamais j'attrapais la COVID, j'ai juste 0.005% de chance d'en mourir. » Qu'est-ce que vous voudriez répondre à quelqu'un comme Maxime Bernier?
Ben, je pense qu'il faut le combat contre un virus, c'est un combat de société. Il faut que tout le monde s'implique.
Bien dit.
C'est à l'échelle, au niveau de la société et au niveau mondial. Là, on est en train de faire des stratégies nationales, mais aussitôt que les populations des pays industrialisés vont être vaccinées, parce qu'ils ont plus d'argent de mieux acheter les vaccins, ça va, la priorité, ça va être de vacciner le reste de la planète. On a éradiqué la variole quand on a réussi à éradiquer tous les derniers foyers qui restent. Chaque être humain est un bouillon de culture pour un virus. Et il s'agit qu'il y ait une personne qui permettent la reproduction d'un virus donné pour qu'apparaissent des mutants qui vont donner naissance éventuellement à une réapparition d'une pandémie. Donc, il faut, quand on parle de vaccination, que ce soit le maximum, sinon 100% de la population qui soit vaccinée, pour qu'à long terme, on réussisse à contrôler ça. Donc,
on ça, regarde c'est intéressant.
Les catastrophes. Regardez Israël, un succès total, là. C'est le pays. Je vous rappelle que dans les autres bonnes nouvelles, le Québec se situe en sixième position en termes de pourcentage de personnes vaccinées par rapport devant, juste derrière les pays, certains pays arabes, derrière Israël, derrière l'Angleterre, et ainsi de suite. On est en sixième position. En Israël, le pays où il y a le plus de gens vaccinés, les taux de réduction de la maladie, des décès, c'est plus de 90, 95, 98% de réduction. Ça prouve que la vaccination, avec les vaccins qui sont présentement disponibles, fonctionne remarquablement bien. Et à l'opposé, on a le Brésil, qui est une catastrophe politique. Ils n'ont pas pris de mesures sociales, ils n'ont pas été proactifs comme on l'a été ici. Ils n'ont pas été disciplinés au niveau populationnel, ils ont été irresponsables au niveau politique. Puis on a une catastrophe absolument hallucinante. Ça va être un des pays qui va le payer le plus cher, leur indiscipline et leur manque de vision d'un point de vue de la gestion de la santé publique. Donc, on a déjà des exemples, là, même si la pandémie n'est pas finie, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire.
Oui. Alors, je veux revenir sur ce que vous dites parce que je trouve que c'est important. Donc, vous dites que c'est un combat de société, puis en même temps, vous dites, donc, chaque être humain est un bouillon de culture. Donc, même si, mettons, on arrive à 99% de la population qui est vaccinée, s'il y a 1% qui reste récalcitrant, ce 1%-là peut causer des torts aux 99% d'autres qui, eux, se sont fait vacciner. C'est ça que vous dites?
Oui, théoriquement, c'est ça. Évidemment, plus vous avez de la vaccination, moins vous avez de possibilités de distribution, d'étalement du virus. Je vous rappelle qu'on a réussi à contrôler des toutes sortes de virus, la rougeole et d'autres. Mais tous les virus mutent, c'est pas juste les coronavirus qui mutent.
Non, non.
Tous les virus. Un virus, ça ne fait que se reproduire. Hein. Vous n'existez pas pour un virus, vous êtes une occasion de reproduction. C'est simplement ça. Là. Un virus, c'est du matériel
génétique. On voit l'image.
Oui, c'est juste quelques gènes, un virus. Hein. Vous savez, le génome humain, c'est plus de 20 000 gènes. Les bactéries, c'est plusieurs milliers. Mais un virus, ce n'est que quelques gènes. Et tous ces gènes-là, parce que le virus, c'est un parasite. Il se sert de votre machinerie de production de protéines et de à l'intérieur de vos cellules pour se reproduire. C'est un parasite absolu. C'est l'exemple absolu du parasite, le virus. Et il ne vous considère pour rien, pour absolument rien, là. Vous pouvez être une vache, un pangolin, une chauve-souris, un être humain. Pour lui, vous n'êtes qu'une occasion de transmettre ses gènes. Les virus mutent constamment. Et ce qu'il faut, c'est réduire la probabilité que les virus mutent à l'échelle mondiale. Et dans un premier temps, commencer par contrôler ce qu'on peut contrôler. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je dis aux gens, soyez très, très fiers de ce que vous avez fait au Québec dans un an, la discipline dont les citoyens ont fait preuve. C'est remarquable. On l'oublie, on a souffert, mais on a réussi à contrôler ça. On partait avec deux prises au bâton, là, avec les CHSLD. Là. On partait très mal. Puis on s'est rattrapé, puis les Québécois ont fait une preuve extraordinaire de solidarité sociale. On est fatigué, on est déprimé, on a souffert, mais on a réussi à contrôler ça. Et là, les chiffres sont bons. On était à 100 morts par jour il y a un an, puis là, on était entre 5 et 12 morts par jour. On a réduit d'un ordre de grandeur le nombre de décès, les hospitalisations et tout. Je veux dire, il n'y a pas de comparaison entre là où on était il y a un an et là où on est présentement. On connaît mieux la maladie, on sait que c'est une maladie qui cause des désordres vasculaires, qui cause des désordres de coagulation, qui cause des désordres inflammatoires. Et on a des médicaments pour traiter ces problèmes-là. On n'a pas de médicaments contre le virus, mais on a des médicaments contre les conséquences cliniques que donne l'infection par ce virus-là. Et ça, il y a un an, on ne le savait pas. On observait toutes sortes de désordres qu'on ne contrôlait pas cliniquement parce qu'on ne comprenait pas biochimiquement comment est-ce que le virus nous rendait malade. Et là, on le comprend. Il y a eu des milliers de publications de fait sur les mécanismes d'infection du virus. Et là, on a une compréhension scientifique de l'infectiosité des mécanismes biochimiques et cellulaires par lesquels le virus nous rend malade. Et on contrôle ça également. On a produit pas juste des vaccins, mais on a produit des anticorps monoclonaux qu'on peut administrer à des patients qui développent la COVID s'ils n'ont pas été vaccinés.
D'accord.
On reproduit en laboratoire avec les anticorps monoclonaux ce que le corps normalement donnerait suite à une vaccination. Ces médicaments-là existent. Il y a Eli Lilly puis Regeneron qui ont produit des anticorps monoclonaux contre le coronavirus et ils sont en phase d'essai clinique puis certains sont approuvés. Donc, il y a eu des progrès de ce côté-là également. Là.
Donc, même si quelqu'un n'a pas été vacciné contracte la maladie, on est en train, même à ça, de trouver une solution. Puis, la grosse inquiétude qu'on a face aux variants et à la possibilité que les vaccins ne soient pas efficaces, vous, même ça, vous mettez ça dans la catégorie des bonnes nouvelles et de l'optimisme, parce que vous dites les vaccins sont efficaces face aux variants, fait que même si j'essayais de vous rendre déprimé aujourd'hui, j'y arriverais pas, docteur Béliveau, là, vous êtes vraiment optimiste sur tous les fronts.
Non? Oui, parce que ce que la science dit, les études l'ont montré, les vaccins font pour le variant britannique, là, les vaccins fonctionnent très, très bien. Il y a pas de problème. Les études ont été faites là-dessus. Puis pour le variant sud-africain, la même chose, il y a des vaccins qui fonctionnent mieux que d'autres, mais l'ensemble des vaccins fonctionnent parce que tous les vaccins qui sont disponibles présentement ont été développés avec la protéine S des spicules, là, des petites pointes qu'il y a sur le virus. Et c'est cette protéine-là qui permet au virus d'infecter nos cellules, de pénétrer. C'est la clé moléculaire qui permet au virus de rentrer dans les cellules. Et quand vous injectez cette protéine-là, votre système immunitaire produit des anticorps contre cette protéine-là et il empêche la clé de rentrer dans votre serrure cellulaire pour vous infecter. Si le virus se met à essayer d'échapper au système immunitaire, aux anticorps, en mutant cette protéine-là, il est dans un cul-de-sac évolutionnel parce qu'il va en même temps s'empêcher de pénétrer dans nos cellules. C'est la raison pour laquelle la conception des vaccins et les taux d'efficacité des vaccins qui ont été créés sont aussi élevés parce que au départ, c'est pas des vaccins qui ont été faits avec l'ensemble du virus. Puis là, on a toutes sortes d'anticorps contre toutes sortes de portions du virus. Ces vaccins-là ont été créés de façon extrêmement intelligente en ciblant le point faible du virus qui est sa voie de pénétration. Donc, on a au niveau conceptuel une approche très, très, très rationnelle qui nous permet d'être... C'est sûr qu'il va y avoir des mutants, il va peut-être en avoir des plus virulents, plus infectieux qui vont apparaître, mais à date,
on va être capable.
Ce qui est apparu, et oui, c'est ça, comme vous le dites, on a avec les vaccins ARN la capacité de produire... Un laboratoire comme le mien, dans une semaine, on est capable de produire une séquence pour faire un vaccin ARN. Qu'en une semaine, c'est ce que Moderna a fait, c'était en quelques jours. C'est comme
incroyable.
Ça que ça fait. Et on est capable d'aller tout de suite, traditionnellement, lorsqu'on faisait des vaccins, il fallait faire pousser les virus dans des cellules, en culture ou dans des œufs ou toutes sortes de façons. Ça prenait du temps, c'était compliqué, c'était pas les virus qui poussaient bien. Là, avec l'approche ARN, l'approche de génétique moléculaire, à partir du moment où on a la séquence génétique, la séquence d'ADN, d'ARN, dans ce cas-ci pour les coronavirus qui donne tel variant, on est capable de produire une séquence qui correspond à ça et de faire un vaccin à partir de ça. Donc, on va être capable de se réadapter très, très, très rapidement s'il y avait des variants plus problématiques qui apparaissaient.
Bon, ben, docteur Béliveau, vraiment, là, c'est mieux qu'un double espresso bien corsé. Je pense que je vais faire écouter votre entrevue en boucle à tous ceux qui sont non seulement sceptiques, mais un peu défressifs sur les bords. Que du côté positif, de l'optimisme, et aussi, surtout, je retiens deux choses de ce que vous nous avez dit aujourd'hui. Premièrement, la solidarité du peuple québécois, et aussi, évidemment, la grande concertation du monde scientifique. C'est quand même deux exploits absolument extraordinaires. Ben écoutez, vous venez vraiment de remettre de la mine dans mon crayon. Je suis super contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Merci, docteur Béliveau.
Bonne journée.
Merci Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc vraiment, si vous avez des amis qui sont un peu déprimés, qui disent « Ah, il pleut, fait pas beau, ça va pas bien », faites-leur écouter cette entrevue-là avec Monsieur Béliveau, parce que vraiment, ça remet les choses en perspective. Des fois, ça fait du bien de prendre un petit pas de recul.